je vous invite à ouvrir votre Bible. Donc dans l'épître aux Éphésiens. Donc cette deuxième partie de votre Bible, après les évangiles, Actes, Romains, Galates, et vous y êtes. Donc Éphésiens, au chapitre 6. Et si vous avez la même Bible que moi, c'est la page 769. Tu peux afficher les bouchons. Alors, je ne sais pas. Je pense que beaucoup d'entre nous, en fait, sont actuellement dans la vie professionnelle ou intégrés une entreprise. Qui travaille ou en stage. Qui est dans la vie professionnelle, quoi. Je me suis dit, soit il n'y a personne qui travaille, soit il y a tout le monde qui s'est endormi, là je me suis inquiété. Et pour ceux qui travaillent peut-être depuis longtemps, peut-être plusieurs années maintenant, peut-être ça fait une dizaine d'années que vous travaillez, est-ce que c'était toujours tranquille? Est-ce que c'était toujours. Vous aviez toujours plaisir le matin à vous lever aux aurores et à aller travailler?
Non,
pas tous les jours. Des jours, c'est mieux que d'autres. Et c'est vrai que une des raisons, c'est aussi notre relation parfois à notre hiérarchie. Qui est un bon chef? Ah, quand même, hein. Je pense parfois on oublie de prier pour eux, parce que c'est vrai que c'est une bénédiction d'avoir ça, et c'est pas toujours le cas. Aussi, si vous avez un chef qui est moins bon, on va aussi prier pour qu'il devienne meilleur. En tout cas, peut-être que les relations s'améliorent. J'ai trouvé cette statistique, donc je vais vous décrire un peu. La question qui a été posée, c'est: quel inconvénient verriez-vous à prendre la place de votre supérieur hiérarchique? Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Certains disaient en fait, je veux juste prendre la place du chef, parce que comme ça, ce ne sera plus lui. D'autres, ils voient une façon de peut-être gagner un peu plus, peut-être d'avoir un peu plus de notoriété, ou de trouver plus de sens à leur travail. Mais par contre, dans les inconvénients, ce qui ressort, c'est d'avoir un équilibre entre vie perso et vie privée qui est moins bon. Parce que quand on commence à avoir des responsabilités, il faut être sûr que ça marche après. Et souvent, c'est notre temps qui est le premier endroit où on le perd. Avoir des responsabilités, ça veut dire aussi les porter, ça veut dire qu'on est responsable en fait parfois aussi de notre équipe, de ceux qui font du bon travail et ceux qui en font du moins bon. Ça peut aussi être responsable justement quand il y a des gros échecs. Moi, à un moment, j'ai pris une responsabilité et le responsable qui était avant, en fait, tout s'était effondré, ils ont perdu 1 million d'euros en un week-end. Donc quand je l'ai pris, j'étais pas vraiment rassuré. On est moins apprécié de nos collègues lorsqu'on est responsable, souvent. Ça fait aussi que parfois on a besoin de sortir de nos zones de compétences, parce que peut-être on était très bon, peut-être dans tel et tel aspect très technique. Mais après, une fois qu'on commence à travailler avec des personnes, c'est différent. Il y en a qui ont besoin d'être très encouragés, d'autres qui ont besoin d'être beaucoup plus cadrés. Et puis finalement, au général, en fait, une des raisons principales qui fait que beaucoup ne veulent pas devenir responsables, c'est que ça amène du stress, pour toutes les raisons qu'on a vues. Et je pense que parfois, ça pollue vraiment la vie de personnes, y compris parfois même de la famille. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que la Bible, elle parle en fait de ces relations qu'on peut avoir dans notre travail, avec notre hiérarchie, mais aussi de la qualité du travail qu'on fournit en tant qu'employé dans une entreprise, et aussi dans notre relation avec un patron. Et c'est ce qu'on a commencé à voir dans cette fin du livre aux Éphésiens, c'est qu'en fait, lorsque le Saint-Esprit agit en nous, c'est qu'on commence à agir de manière différente dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le fonctionnement de notre Église, notre rapport aussi les uns aux autres, les rapports aussi aux responsables spirituels, le rapport dans le couple entre mari et femme, entre enfants et parents. Et là, Paul arrive au moment où il parle des, on va dire, des employés et des patrons. On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais que nous, en tant que, soit en tant qu'employés, soit en tant que patrons, si nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, ça peut vraiment changer notre vie. On peut vraiment le vivre complètement différemment, même si on a les mêmes difficultés que quelqu'un qui n'est pas habité par le Saint-Esprit. C'est pour ça que je nous invite à réfléchir sur ce texte avec cette phrase « Travailler pour Dieu avec l'exemple de Jésus-Christ ». Parce que des employés qui sont remplis du Saint-Esprit et des patrons qui sont remplis du Saint-Esprit, ça fait vraiment une différence dans notre travail, dans notre famille et dans notre Église. Et je vous invite à lire Éphésiens et on va lire les 9 premiers chapitres, enfin, pas chapitres, versets du chapitre 6. Est-ce que tu pourras défiler en même temps ? Non, s'il te plaît. Verset 5, pardon. Esclaves, donc là dans ce cas-là, c'est les esclaves, hein, c'est pas les employés, on y revient. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ, qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, est dans le ciel, et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Alors, c'est pas mon habitude, mais je vais juste donner quelques informations comme sur Paul. Là, il s'adresse à des maîtres et des esclaves. Alors, c'est intéressant de comprendre en fait comment ça se passait à cette époque-là pour qu'on puisse prendre du recul et voir finalement comment le transposer à nous aujourd'hui en France au XXIe siècle. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que du coup, on se trouve dans l'Empire romain, à Éphèse, dans le 1er siècle après Jésus-Christ. Et il faut déjà comprendre que l'esclavage, de manière générale, à ce moment-là, ce n'est pas fondé sur des différences ethniques, la couleur de peau, ou de où on vient, ou de la langue dont on parle. Mais en fait, on est esclave parce qu'on a des dettes. On a des dettes qui sont liées à ce que nous, peut-être, on a déjà perdu comme finances, les dettes qu'on a déjà créées dans la famille. Et une des façons de se sortir finalement de ces dettes-là, c'est de se vendre ou de vendre quelqu'un de la famille pour qu'il devienne esclave pour rembourser ces dettes-là. Déjà, c'est assez différent du contexte que nous, on a connu dans les derniers siècles. Aussi, il y avait beaucoup d'esclaves qui étaient des prisonniers de guerre. Ça se voit beaucoup dans les péplums. On voit que, par exemple, ceux qui étaient dans les galères ou autres, en fait, c'était des prisonniers de guerre. Donc c'était très courant. Mais il faut savoir que sur environ 50 à 60 millions de personnes qui vivent à ce moment-là dans l'Empire romain, il y a quand même 10 à 12 millions d'esclaves. C'est-à-dire qu'un habitant sur 5 est un esclave. Alors, quel était le job de ces esclaves ? Pour certains, c'était des emplois manuels. Donc, c'était des fermiers, des cuisiniers, des domestiques, des personnes qui s'occupaient de tout l'entretien, par exemple, des bâtiments. Mais aussi, il y avait des personnes, c'était des intendants. Donc, c'était des personnes qui veillaient au bon fonctionnement de l'entreprise, de la famille. C'était des personnes qui faisaient des travaux administratifs, qui faisaient des déclarations d'impôts, qui payaient les impôts. Des comptables, des enseignants, même des médecins. Donc il y avait vraiment de tout. C'était pas le statut qui faisait le job. C'est assez surprenant quand on le regarde nous avec notre regard d'aujourd'hui. Et la différence majeure, en fait, finalement, de la qualité de vie d'un esclave à ce moment-là, c'est que Ça dépendait du lieu de vie. En fait, si vous habitiez à la campagne, vous aviez beaucoup plus de chances de faire des travaux physiques, notamment dans les fermes, et ça pouvait être assez rude. En ville, c'était moins le cas, parce qu'il n'y avait pas l'agriculture, il n'y avait pas forcément autant de travaux de force. Après, ça dépendait beaucoup du maître sur lequel on tombait. Certains esclaves étaient clairement maltraités, on ne peut pas idéaliser les choses, loin de là. Tandis que d'autres, en fait, étaient traités avec bienveillance. Et de ce temps-là, en fait, il y avait cette notion, en fait, de maisonnée. Dans la maisonnée, en fait, il y avait la famille, il y avait les employés, et il y avait des esclaves, et tout le monde vivait à peu près dans cet espace-là. Un peu comme les grandes cours de ferme que vous voyez parfois dans la campagne, où finalement, il y avait plusieurs familles qui vivaient tous ensemble et qui vivaient des choses en commun. Et il faut se dire aussi que c'était assez fréquent qu'au bout de 10 ou 15 années de service, en fait, les maîtres libéraient les esclaves de leur servitude et parfois devenaient employés dans la maison. À tel point qu'à un moment, l'Empire romain a dû brider un peu le fait qu'il y avait trop de personnes qui retournaient à la liberté, parce que ça déstabilisait complètement toute l'économie de l'Empire. Alors, par contre, il y a un point commun qu'avaient tous ces esclaves, et que peut-être ceux qui sont encore esclaves aujourd'hui le vivent, c'est que finalement, ils ne sont pas propriétaires d'eux-mêmes, c'est d'autres personnes qui sont propriétaires d'eux, et ils peuvent être vendus comme des objets. Alors, on ne peut pas, comme vous voyez, faire un parallèle direct avec ce qui s'est vécu de ce temps-là, dans ce lieu-là, donc il y a 2000 ans, en Méditerranée, avec nous aujourd'hui en France. Mais on peut peut-être réfléchir ensemble aux grandes lignes qui se trouvent dans ce texte-là et comment on peut les appliquer de manière assez concrète dans notre quotidien, comment nous aussi, nous pouvons dans notre quotidien, dans notre travail, dans notre relation au travail, être dirigés par le Saint-Esprit et prendre l'exemple de Jésus-Christ. Et je pense de manière assez large, même si peut-être aujourd'hui vous êtes à la retraite, vous n'êtes pas encore dans la vie professionnelle, finalement c'est notre rapport à l'autorité en général et de comment nous faisons notre travail, nos tâches dans notre quotidien. Et je vous invite juste à prier pour que Dieu puisse nous parler. Oui Père, c'est vrai que tu as voulu le travail pour nous et c'est vrai que assez rapidement avec le péché ça s'est détérioré. Beaucoup parmi nous peuvent témoigner qu'ils ont pu connaître des temps difficiles dans leur travail et c'est vrai que ça reste un défi en fait, de rester accroché à toi, d'être dépendant à toi, y compris quand parfois il y a des situations difficiles, notamment d'un point de vue relationnel parfois. Et on te prie s'il te plaît que ce matin tu nous encourages et que ça soit vraiment des éléments de ta parole que le Saint-Esprit puisse utiliser dans tous les domaines de notre vie, que ce soit au travail ou comme dans les relations les uns avec les autres, les relations aussi avec nos autorités. Et je te prie s'il te plaît que tu nous renouvelles, que peut-être si quelqu'un a un fardeau particulier dans ce domaine, que vraiment ça soit l'occasion de te le déposer et vraiment repartir avec une vision nouvelle du travail et des relations dans le travail. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, premier point, c'est des employés qui sont remplis du Saint-Esprit. Et c'est vraiment ce que nous voulons être des disciples de Jésus, remplis du Saint-Esprit. Verset 5. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Et là, je voudrais juste faire ressortir finalement quatre aspects. Les questions finalement de notre conduite. Ce qui est demandé finalement, c'est de l'obéissance. C'est que finalement, c'est la personne qui nous demande de faire des choses qui a cette responsabilité-là. Et on a simplement à lui obéir, c'est partie finalement du travail. C'est pas toujours facile. Et puis, comme on l'a vu aussi dans la relation, par exemple, qu'il peut y avoir entre les parents et les enfants, l'obéissance se limite finalement au cadre biblique. Si on nous demande de mentir, de voler, de tricher, ça sort de ce cadre-là et on n'a pas besoin d'obéir à quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Aussi, et je pense que c'est là où on peut vraiment travailler, c'est une question d'attitude. Et une question d'avoir une attitude de respect profond en se disant que si cette personne-là a été mise à cette place-là, c'est que Dieu l'a aussi accordée. Et que nous pouvons respecter cette personne, prier pour elle, même si elle n'est pas forcément la plus sympathique. Mais on peut avoir du respect envers elle, ne pas parler dans son dos, de dire des choses mauvaises d'elle, de ne pas faire exprès aussi que tout ce qu'elle dit, en fait, ça pose des problèmes dans notre travail. Il y a une question d'authenticité, de sincérité de cœur. Est-ce que je suis sincère dans ce que je fais comme travail? Est-ce que je fais du mieux que je peux? Est-ce que je le fais dans le respect aussi de mon entreprise, de mon employeur, des personnes que Dieu a placées autour de moi, de mes collègues? Puis enfin, une question de motivation, et je pense que c'est vraiment la salle essentielle, comme à Christ. Notre motivation, c'est d'avoir une conduite, une attitude et une authenticité qui est comme celle de Christ. Le Jésus-Christ que l'on découvre dans la Bible, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place, dans mon travail, dans cette situation-là? Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est motivant pour nous, et je pense que Jésus, il aura toujours fait le meilleur, en fait. Il se sera toujours appliqué dans ce qu'il faisait, et il aurait été franc, mais il a aussi été celui qui va le premier, être serviteur, celui qui va faciliter les choses. Alors, ces derniers temps, on avait quelques petits travaux à la maison, mais c'est vrai que j'ai vu passer différents ouvriers à la maison, et ce qui est marrant, c'est que, je ne sais pas si ça vous est aussi arrivé, mais au bout de quelques minutes, ou quelques heures, ou parfois pour certains qui restent longtemps, quelques jours, à un moment ou un autre, ils commencent à vous parler de son patron. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non? Ok, faites des travaux, vous allez voir, c'est instructif. Au début, ça peut être simplement, il a encore oublié de nous commander le matériel qu'on avait besoin avant de venir sur le chantier. Ça, c'est assez récurrent, j'ai l'impression que les ouvriers, souvent, ils partent avec des camions à moitié vides. Après, ça peut être dans l'organisation, ça peut être dans plein de choses. Et c'est pas fou en soi, mais moi qui connais pas le patron, je commence à me faire une idée de ce patron-là, qui est sans doute pas celle de la réalité. Ils ont un aspect que eux présentent, mais moi ça commence à me fausser ma vision de cette personne-là. Et c'est là où peut-être chacun d'entre nous a déjà été confronté à ça. C'est un patron qui n'est pas toujours au top. Et par contre, nous, on a quand même besoin d'assumer parfois ces erreurs devant d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? On peut être vrai, mais on peut aussi être respectueux. Verset 6. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes. Cette question, c'est est-ce que nous sommes vrais dans notre travail? Est-ce que nous sommes vrais avec notre employeur, vrais avec nos collègues? Est-ce que nous sommes consciencieux parce que nous voulons vraiment faire correctement les choses? Est-ce que nous avons cette motivation profonde de vouloir bien faire les choses? Quelle importance aussi accordons-nous à l'avis ou au regard des autres? Est-ce que lorsque je travaille et que mon patron ou un collègue est à côté de moi, est-ce que je travaille différemment que lorsque je suis seul, peut-être en télétravail à la maison? Je pense que c'est des questions qui peuvent vraiment se poser à chacun d'entre nous. Et puis finalement, ce texte, il n'y en a pas tellement dans la Bible, mais c'est l'occasion de faire une petite pause et de réfléchir à ces questions-là. Vous savez, de ce temps-là, en fait, il y avait des codes domestiques. La dernière fois, j'avais parlé qu'il y avait des codes qui parlaient de comment un mari devait se comporter vis-à-vis de sa femme ou de ses enfants, mais aussi il était question de comment se comporter vis-à-vis d'employés, mais aussi d'esclaves. Et ça s'adressait principalement au maître et à l'homme en tant que mari de ce temps-là, de comment se comporter avec sa femme, ses enfants, ses esclaves. Mais ce texte, il a vraiment quelque chose de révolutionnaire à l'époque, que nous, peut-être, on n'a peut-être pas tout de suite saisi le sens, mais en fait, il est en train de dire clairement que les esclaves ne sont pas des objets, mais que ce sont des personnes qui ont des responsabilités. Des responsabilités envers Dieu, envers la société, et même envers leur patron, leur maître. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent des décisions morales. On l'a vu, l'obéissance, le respect, la sincérité. Ça leur dit aussi que vous faites un travail qui a de la valeur. Pour vous, pour votre entreprise, pour la société. Et leur attitude compte plus même que ce qu'ils font. Je fais des travaux dans la maison depuis un certain temps maintenant, et puis une de ces parties où je me découvre avec un haut niveau de stress, c'est l'électricité. Et surtout en ayant une formation d'électricien. Alors je trouve de tout, des fils qui ont de la mauvaise couleur, alors parfois on pense qu'il n'y a pas de courant, mais en fait il y en a. L'autre fois j'étais dans le grenier, j'étais en train de suivre un câble parce que je voulais voir qu'est-ce que ça alimentait. Puis, vous savez, je tire délicatement dessus, puis un grand arc électrique qui se met devant moi. Et c'est là que je découvre qu'au bout, en fait, au lieu d'être dans un domino et puis serré pour qu'on ne puisse pas l'enlever, en fait c'était juste entouré autour d'un autre fil avec un petit morceau de scotch. Donc je ne vous dis même pas l'arc électrique, et puis après vous êtes dans la nuit profonde dans votre grenier, alors qu'il fait bien chaud. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, finalement, ça marchait. Ça alimentait une ampoule quelque part dans la maison. Mais c'était pas bien fait. Et c'était presque criminel. Parfois, on peut vouloir faire des choses pour que ça marche. Mais honnêtement, on ne ferait pas ça pour nous-mêmes à la maison. Ou alors, c'est qu'on n'a pas prévu de vivre longtemps. Mais dans notre travail, je ne dis pas que vous êtes des criminels. Mais est-ce qu'on a aussi ce côté-là de dire... Ben, je veux pas simplement que ça marche, je veux que ça soit bien fait dans les règles de l'art. Je veux m'appliquer dans ce que je fais et que si, plus tard, je n'aurai pas à regretter le décès de quelqu'un. Donc, comprenez que si nous travaillons, même si notre patron n'est pas forcément sympathique, même si on n'a peut-être pas toujours tout l'équipement qu'on veut dans notre camion quand on va sur une intervention, même si notre travail n'est pas le plus passionnant, nous pouvons le faire bien. Parce que nous sommes témoins de Jésus, y compris dans la qualité de notre travail et surtout dans notre attitude de cœur. Est-ce qu'on est bienveillant envers nos clients, envers nos responsables ? Verset suivant, « Mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout cœur, de tout leur cœur, la volonté de Dieu. » Comprenez que chaque jour, nous avons à faire ce choix, finalement, de plaire aux hommes, de faire des choses qui peut-être parfois visiblement sont bien, rester sur des apparences, ou nous pouvons faire le choix de plaire à Dieu qui, lui, connaît tous les détails de ce que nous faisons. Même quand nous sommes seuls à la maison en télétravail, notre patron, lui, ne sait pas forcément tout ce qu'on fait, mais Dieu, lui, le sait. Alors, servir des personnes qui peut-être parfois fonctionnent seulement par l'appât du gain, qui ne sont pas forcément les plus sympas envers nous, c'est pas forcément toujours facile. Toutefois, on peut faire ce choix volontaire, et ça nous coûte, de dire, ben, je vais travailler pour eux quand même, je vais travailler avec eux, en étant d'abord des serviteurs de Jésus-Christ. Moi, je bosse d'abord pour la maison du Père. Des personnes qui sont animées ou non par les apparences, ça veut dire qu'ils resteraient peut-être que sur les apparences, ben ça fonctionne pas dans la durée. On le voit bien, c'est qu'au bout d'un moment, on se retrouve confronté à nous-mêmes et on voit bien peut-être que ça fait 10 ans qu'on fait des choses qui n'ont pas de valeur. Mais on peut faire ce choix d'être animé par ce qui est bon aux yeux de Dieu. Mais pour ça, on ne peut pas y aller juste avec une décision personnelle. On a besoin de dire « je veux être renouvelé par le Saint-Esprit, je veux être dirigé par le Saint-Esprit dans mon quotidien, dans mon travail. » Et parfois, on peut se dire finalement, lorsque j'effectue des tâches qui ne me plaisent pas beaucoup, des tâches qui sont répétitives et qui ne m'intéressent pas beaucoup, qui sont peut-être lassantes, qui sont peut-être épuisantes, ou on ne comprend même pas pourquoi on nous a demandé de les faire parfois, hein, je ne sais pas si ça vous arrive, ben on peut quand même faire ce choix de se rappeler que nous le faisons en premier pour Dieu. Pouvons témoigner de l'œuvre de Dieu dans notre attitude et peut-être même dans les encouragements qu'on pourra donner à quelqu'un d'autre qui pense à la même chose. Pourquoi je fais ça? C'est quoi le sens? Je pourrais faire beaucoup d'autres choses qui seraient mieux. Mais là aussi, on peut encourager nos collègues. Vous savez, il y a cette illustration qui est bien connue, c'est trois hommes qui se trouvent dans une rue à la période médiévale et ils tapent sur des cailloux. Et il y a quelqu'un qui va les voir, qui leur pose la question, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Le premier dira, bah, en fait, moi je tape sur des cailloux, je ne sais pas pourquoi, mais finalement ça me permet de m'occuper dans la journée, puis je gagne un peu d'argent. L'autre dira, bah, moi je travaille tous les jours sur ce caillou, j'essaie de le faire bien, puis ça me permet en fait de nourrir ma famille, ça me permettra aussi bientôt d'ouvrir mon entreprise, parce que ça me permet d'avoir de l'argent. Puis le dernier va dire, en fait, moi je bâtis une cathédrale. Est-ce qu'on reste fixé sur le royaume de Dieu? Est-ce qu'on reste fixé sur quelque chose de plus grand que ce qu'on est en train de faire dans le détail? Est-ce qu'on bâtit le royaume de Dieu là où Dieu nous a placés, y compris dans notre travail? Est-ce qu'en tapant sur des cailloux, peut-être, est-ce qu'on contribue à bâtir le royaume de Dieu? Est-ce qu'on contribue par nos attitudes, par notre relation à bâtir le royaume de Dieu dans notre vie, dans notre famille, dans notre entreprise? Verset 7. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Alors ça ne se fait pas facilement, hein, c'est pour ça que c'est répété quand même plusieurs fois, que moi aussi je le répète plusieurs fois. Servir des personnes qui ne sont pas forcément sympathiques, qui ne respectent pas forcément notre travail, ben, il y a des moments c'est difficile. Et ça ne se fera pas tout seul, mais on a besoin du Saint-Esprit. Si on pense y arriver par nous-mêmes, à un moment ou à un autre, on sera déçu, mais terriblement. Et c'est dans ces moments que nous pouvons nous rappeler que ce que nous faisons, c'est premièrement pour Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Avant de servir des hommes, avant de créer de la richesse, avant de fabriquer, de réparer, nous sommes des adorateurs de Dieu, y compris dans notre travail. Faire un bon travail et faire la volonté de Dieu. Et, ça, et moi, ce qui m'a touché en regardant encore ce texte, c'est que Dieu, dès le début, dès les premières pages de la Bible, peut-être même dès la première page de la Bible, il donne à Adam des missions. Il l'emmène, il dit, bah, tiens, tu vas donner des noms à tous les animaux qui se présentent devant toi. Bah, tu vas entretenir et développer ce jardin. C'est toi qui va prendre des décisions aussi, qui va le garder, ce jardin. Et Dieu, il a des attentes assez précises pour son adoration. Par exemple, il va dire à des artisans, construisez le tabernacle avec des objets qui sont forgés, construisez le temple de telle et telle manière avec des matériaux qui ont de la valeur, qui sont nobles. Il va dire à des personnes qui sont des musiciens de se former, de s'entraîner pour amener de la musique lors des cultes. Et ça nous ramène à cette réalité. Si nous voulons produire un bon travail selon le regard de Dieu, naturellement, nous chercherons à progresser dans ce que nous faisons, même si ce n'est pas forcément le plus intéressant, mais ça sera un témoignage d'abord d'adoration à Dieu. Ce n'est pas pour faire de l'élitisme, pour dire « Ah, moi, je fais mieux que tout le monde » ou pour plaire aux hommes en disant bah, « Moi, je fais aussi mieux qu'eux » ou chercher les flatteries, mais c'est simplement pour faire un travail de qualité. Moi, je suis toujours surpris quand j'entends des personnes qui, parfois, pour un métier, j'ai un peu de mal à comprendre les tenants et les aboutissants, mais par exemple, des personnes qui font du service à table. La dernière fois, je regardais un reportage sur comment ça se passait pour les repas d'État à l'Élysée. Et c'est tellement impressionnant, en fait, comment ils font. Ils sortent les mètres pour mesurer l'emplacement de l'assiette, les fourchettes, les couteaux. Déjà, moi, juste pour savoir si c'est gauche ou droite, j'ai déjà toujours du mal. Du coup, je suis impressionné parce que c'est vraiment un truc qui se lève à 5h du matin. Le boucher, enfin le chef, il va de l'autre côté de la France pour choisir les bêtes qui vont être utilisées en 3 mois pour le repas. Moi, je suis là, je me dis, mais comment est-ce que c'est possible d'être aussi intéressé, aussi consciencieux, aussi précis dans ce métier-là? C'est pas mon métier. Et je me dis, c'est waouh! Et moi, ça m'inspire parce que c'est des choses où peut-être nous, on est tous confrontés à ça. Hein. On met tous la table, non, tout le monde n'aime pas la table. Beaucoup d'entre nous cuisinent aussi, mais est-ce qu'on est consciencieux comme ça? Et c'est vrai que c'est beau de voir des personnes qui sont imprégnées de ce qu'ils font. Mais nous pouvons être imprégnés par le Saint-Esprit pour faire des choses bien et exercer comme un art notre travail à la gloire de Dieu. Verset 8, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Alors, ça dérange parfois notre théologie de dire chacun recevra de Dieu le bien qu'il aura fait. Est-ce que c'est biblique ça? On mérite rien de Dieu. Et pourtant, Dieu regarde tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait de bien, et il s'en souvient. Et à un moment ou à un autre, il nous récompensera aussi de ça, parce qu'il aura pris plaisir au bien qu'on aura fait, y compris dans les petits détails, y compris dans notre travail. Et je trouve que c'est vraiment beau de se dire que finalement, toutes les choses qui sont cachées aux yeux de tous les hommes, bah, Dieu le voit. Et il voit les petites choses, on a voulu faire un tout petit peu plus pour que ça soit propre, pour que ça soit bien, pour que ça soit bien fait. Dieu le voit et il nous encouragera, que ça soit dans ce monde-ci ou dans sa gloire à venir. Et je pense que c'est bon de se dire, voilà, je fais un petit truc de plus, mais parce que je veux le faire bien pour Dieu. Dieu donnera dans ce monde, dans l'éternité, de la valeur à ce que nous faisons dans le secret. Dieu voit chaque clou que tu as planté droit, chaque clou que tu as plié, que tu as ressorti pour le replanter droit, Dieu le voit. Chaque fois que tu auras réparé la chaudière d'une famille qui était désespérée en plein hiver, qui ne savait pas comment ils allaient se chauffer, Dieu le voit. Chaque pansement que tu as changé en faisant attention de ne pas faire mal à la personne, Dieu le voit. Chaque enfant auquel tu auras appris à lire et à écrire, Dieu le voit. Chaque mètre carré que tu auras nettoyé pour que ça soit agréable, Dieu le voit. Chaque fois où tu es venu dans le secret pour faciliter le travail de l'équipe, en préparant les plannings, en préparant peut-être le matériel, en préparant l'organisation, Dieu le voit. Chaque fois que tu as fait le choix de te former, de lire un mode d'emploi, même si tu n'aimes pas beaucoup ça, où tu as pris du temps à te former sur une machine, Dieu le voit. Tout ce que tu as fait pour la gloire de Dieu, pour le bon fonctionnement de l'entreprise, pour soutenir tes collègues, aussi, je pense qu'on peut l'extrapoler à l'église, à la famille, Dieu le voit. Ce que nous faisons, même lorsque personne ne le voit, Dieu, lui, il l'apprécie. Et je pense que c'est l'occasion aussi de remercier tous ceux qui, semaine après semaine, œuvrent discrètement dans l'église. C'est des personnes que l'on ne voit pas forcément. C'est des personnes qui ne rentrent pas forcément même dans ces locaux parce qu'ils le font à distance. C'est des choses qui se font dans le secret, ça fonctionne, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est tellement bon de dire que Dieu pourvoit, Dieu forme, et on peut vraiment prendre plaisir à servir Dieu dans tous les petits détails de notre quotidien. Et c'est là qu'on voit bien que notre motivation, elle vient du fait qu'on est rempli du Saint-Esprit et qu'on veut servir Dieu dans tous les domaines de notre vie et des employés qui sont remplis du Saint-Esprit. Enfin, aussi, il y a des patrons qui sont remplis du Saint-Esprit. Alors vous serez peut-être surpris que Paul ne demande pas au maître finalement de libérer tous leurs esclaves d'un coup. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a sans doute plusieurs raisons. Je pense qu'on aurait déstabilisé complètement tout l'empire, toute l'économie. Peut-être qu'il y a des personnes qui se seraient retrouvées massivement au chômage, qui n'auraient plus de quoi nourrir leur famille, plein de choses comme ça sans doute. Après, on ne sait pas pourquoi. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que dans les siècles qui ont suivi, beaucoup de chrétiens se sont personnellement investis pour cette cause, pour que l'esclavagisme soit aboli. Et certains ont payé le prix fort, qui sont allés rejoindre des esclaves et qui sont morts avec eux aussi, parce qu'ils voulaient changer les choses, parce qu'ils voulaient faire reconnaître que chaque humain est une créature de Dieu. Et Paul, dans une autre épître, dira « Mais si vous avez la possibilité d'être libéré de l'esclavage, profitez-en. C'est la gloire de Dieu aussi. » Toutefois, je pense que là, on peut essayer de se concentrer vraiment sur l'essentiel de l'évangile qui nous est décrit ici. C'est ce que Dieu désire pour tous les hommes, c'est un changement de cœur. Ce que Dieu désire pour les hommes, c'est un changement de cœur que le Saint-Esprit nous dirige. Verset 9 « Quant à vous, maître, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces. » Alors ça veut dire que là, c'est aussi révolutionnaire en fait. Paul vient de dire aux esclaves ce qu'ils doivent faire, et là Paul dit, mais en fait, vous maîtres, faites la même chose que les esclaves. Alors si je paraphrase, ça donne, maître, exercez l'autorité sur vos subordonnés avec crainte de Dieu et profond respect pour ces êtres humains qui sont des créatures de Dieu, créés à l'image de Dieu et qui sont vos frères. Exercez l'autorité avec sincérité de cœur, comme Christ exerce envers vous. Faites de tout votre cœur la volonté de Dieu. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Deux mots, mais tellement puissants. Vous êtes pareil, vous avez besoin de vous soumettre à la volonté de Dieu. En France, on a beaucoup de mal avec l'autorité. Vous êtes d'accord, j'imagine. On a toujours quelque chose à râler. Très bon pour ça, on est connu mondialement pour ça. on râle sur notre gouvernement. Ouais, parfois il y a des raisons. On râle sur notre patron, là aussi parfois il y a des raisons. On râle peut-être parfois aussi sur d'autres autorités. Et c'est là où c'est intéressant de se rappeler, je pense, en tant qu'enfant de Dieu, c'est que ben, tous ceux qui exercent l'autorité, y compris dans l'Église, ben, ils le feront de manière imparfaite. Certains mieux que d'autres, on est d'accord. Ça sera imparfait parce que c'est des hommes, on est tous pécheurs, on est tous pareils. Et nous avons souvent de très fortes attentes envers nos dirigeants. Et je pense que c'est ça vraiment la difficulté majeure, finalement. C'est qu'on a des attentes envers des personnes. Alors Dieu leur a confié cette autorité. Et je me pose cette question, est-ce que c'est juste les attentes qu'on a envers des hommes? Est-ce que ce n'est pas des attentes qu'on devrait plutôt avoir envers Dieu? On voudrait que nos dirigeants, en fait, ils soient justes, impartials, qu'ils sachent beaucoup de choses et qu'ils aient le courage de les mettre en place aussi. Bien sûr, on peut prier pour ça, mais... Je veux dire, aujourd'hui, on se connaît chacun d'entre nous. Parfois, on sait qu'il y a des choses justes à faire. Et par contre, on sait que ça fera beaucoup de bruit et qu'on va prendre cher si on fait ce qui est juste. Et là, ça nécessite du courage d'aller de l'avant. Toutefois, il est bon de se rappeler que tous ont reçu une autorité de Dieu. Les maris, les parents, les patrons, les responsables spirituels. Et chacun est redevable devant Dieu, de ce qu'ils font. Qu'ils le sachent ou pas, à un moment ou à un autre, ils seront redevables devant Dieu. Même s'il y a un patron qui est athée, qui ne croit pas en Dieu, à un moment, il devra répondre de Dieu à Dieu, de ne pas avoir accompli la volonté de Dieu. C'est là que je pense qu'on peut vraiment revenir avec beaucoup d'humilité, parce que c'est des personnes qui vont devoir... porter les responsabilités de leurs actes, de ce qu'ils auront fait ou pas fait, de leur manque de courage parfois, aussi parfois de leur manque de savoir. Mais nous pouvons les aider, je pense déjà par la prière, c'est pour ça que je pense que c'est important aussi peut-être qu'on puisse développer ça dans l'Église, de prier plus pour nos autorités. On n'y pense pas toujours facilement, mais c'est tellement important. En les encourageant, en leur faisant peut-être des suggestions quand c'est possible, aussi leur faire des remarques positives pour leur bien, aussi faire valoir les choses bien qu'ils ont faites, parce que souvent c'était au prix de sacrifices, je pense. Leur suggérer peut-être aussi des sujets qui nous tiennent à cœur en tant que chrétiens, et les aider à être responsables finalement des personnes dont ils sont responsables, y compris pour nos patrons. Mais au final, ils ne seront pas redevables envers toi ou envers moi. Ils seront redevables envers Dieu lui-même. Et je pense que ça nous inspire vraiment de la crainte. Enfin, il leur dit aussi, abstenez-vous de menaces. Les maîtres de ce temps pouvaient avoir diverses menaces. On pense naturellement peut-être aux coups, peut-être à des maltraitances, peut-être à des privations, peut-être de certaines choses, peut-être limiter la nourriture. Éventuellement, on pourrait penser à des menaces de mort, mais c'est vrai qu'au prix d'un esclave, c'était vraiment une perte colossale en fait pour un maître de tuer un esclave, ça n'avait aucun intérêt financier pour lui. Et la menace sans doute qui était la plus importante et la plus commune de ce temps, c'était de dire, mais toi tu m'obéis pas, à chaque fois que tu fais l'inverse de ce que je te dis, ben je vais te revendre, je vais te revendre à un autre maître, et tu seras séparé de ta famille. Ça fait mal. Et là, Paul leur dit, mais arrêtez les menaces. Arrêtez de fonctionner comme ça. C'est pas la volonté de Dieu. Ce sont des menaces qui peuvent rapidement devenir oppressantes, conduire à la peur, un stress permanent. Est-ce que parfois, nous aussi, est-ce qu'on peut connaître ces menaces-là? Peut-être en tant qu'employé, ou peut-être si on est responsable, est-ce qu'on prend garde à ne pas menacer, peut-être? Quand tu vas perdre ta place de parking, tu vas peut-être perdre tel et tel avantage. Finalement, au lieu d'être dans notre agence locale, tu vas aller à 30 km plus loin, peut-être dans une autre région. La prime que tu recevais tous les mois, là, on va l'arrêter. Ou peut-être la menace, c'est de te licencier, peut-être pour faute grave. Il y a de ça dans nos entreprises. Il y a peut-être des menaces plus subtiles, mais je pense en tout cas en tant que responsable, en tant que patron, en tant que chef de service ou autre, on peut vraiment être attentif à cela, de ne pas mettre un stress ambiant dans l'entreprise, dans le service, même par des petites phrases. Enfin, par contre, c'est ça qui est quand même particulier, c'est qu'un responsable, sa responsabilité, c'est s'assurer quand même que ça fonctionne bien et que chacun fasse son travail de manière adéquate. Alors, en France, heureusement, il n'est pas permis d'avoir des esclaves, mais par contre, il y a aussi beaucoup de lois, enfin, je reprends ma phrase, il y a aussi beaucoup de lois qui sont là pour protéger les employés des abus. Et dans le pire des cas, un employé peut démissionner, et parfois c'est très bien. On ne peut pas forcément toujours forcer le passage et ruiner sa santé. Parfois, il faut aussi se poser la question, quel est le temps de Dieu pour moi aujourd'hui ? Est-ce que je suis allé au bout de ce que j'avais à faire ? Et si c'est le cas, pourquoi pas chercher un autre emploi ? Et c'est là où justement un patron, lui aussi, il a une responsabilité. Ben, c'est aussi, selon le cas, de reprendre une personne et qui est sous sa responsabilité, peut-être parfois sur la qualité de son travail, peut-être un manque d'implication, peut-être son attitude, parfois même vis-à-vis des collègues. Et c'est normal, parce que c'est sa responsabilité en tant que chef. Et c'est pas facile, je pense, pour tous ceux qui ont eu à le faire. C'est que souvent, on attend, on repousse, on se dit « ça va s'arranger par soi-même », et à un moment, on dit « bon, il faut quand même que j'y aille ». Et là, comment est-ce qu'on agit ? L'objectif, c'est d'amener chacun à progresser dans son travail, dans son implication dans l'entreprise et éviter surtout le naufrage de l'entreprise ou le naufrage d'un service à cause d'une ambiance qui est pourrie ou chacun fait juste ce qu'il a envie de faire. Alors, peut-être quelques conseils de base pour ce qui s'implique, qui se base sur un certain nombre de principes bibliques que l'on trouve dans le fonctionnement de l'Église, mais aussi, je pense, des choses qui sont simplement des bonnes pratiques. Bah, c'est de simplement déjà ne pas reprendre quelqu'un publiquement devant tous les autres collègues quand il fait une bêtise, pour ne pas l'humilier. C'est de discuter en tête à tête avec des éléments factuels. Chercher à impliquer la personne dans la résolution de la difficulté. Valoriser la responsabilité de la personne dans son travail, dans le fait d'améliorer les choses, de progresser, de résoudre des difficultés. Et finalement, garder, même si c'est délicat, même si c'est difficile, une attitude bienveillante en visant le bien de la personne et de l'entreprise et du service. J'imagine que bah, parfois, c'est aussi nécessaire d'avoir la réciproque. Un employé qui peut aussi parler à un chef de service, un patron, et lui évoquer en fait, peut-être des choses qui lui pèsent, à juste titre, et lui parler peut-être des choses qu'il voit, qui l'empêchent de faire correctement son travail, ou des choses qui l'inquiète, sans vouloir prendre sa place. Et c'est pour ça qu'il est bon de se rappeler que le responsable est une personne qui lui-même a des défis, a des comptes à rendre. Il est aussi responsable du fonctionnement d'un projet, d'une entreprise ou d'un service. Que chacun, à la fin du mois, ait un salaire, que les familles des employés aient de quoi vivre et que les clients aient un travail de qualité qu'ils ont payé. Et ça vaut certainement la peine d'avoir parfois des conversations informelles pour parler simplement au fil du temps des choses qui parfois nous interrogent autour d'un café, autour d'une tisane, nous dire les choses qui nous pèsent, des idées d'amélioration, pas juste venir avec des problèmes à chaque fois, mais proposer des solutions concrètes et pas attendre des années ou des mois et puis après d'exploser en plein vol et mettre le chantier. Je pense que ça aussi, c'est en tant que chrétien dirigé par le Saint-Esprit, on peut demander à Dieu de nous diriger dans ces conversations-là pour le bien de notre entreprise, pour le bien de nos dirigeants. Vous savez, moi, à un moment, j'étais en entreprise et je travaillais beaucoup. Hein. J'étais sollicité des nuits, des week-ends, ça ne s'arrêtait jamais. Et à un moment, j'avais vraiment le côté, ouais, je suis exploité et mon patron ne décroche jamais le téléphone. J'ai presque aucune contrepartie pour tout le travail que je fournissais, largement en dehors des horaires, y compris les jours fériés, les week-ends, les nuits. Et finalement, à un moment, il y a eu un moment où on a pu avoir un échange parce que moi, j'étais plutôt dans le mode à dire, bon, ben, j'arrête tout. Mais après, en l'écoutant et au moment où ils commencent à me décrire les choses en me disant bon, voilà, je vois bien que tu fais tout ça, on essaie vraiment de trouver des solutions pour améliorer les choses. Est-ce que tu peux pas toi aussi proposer un certain nombre de choses? C'est là que je me suis rendu compte que peut-être parfois j'ai pas assez insisté pour dire qu'on peut pas continuer comme ça. C'est tout l'intérêt d'avoir des discussions de qualité sur des choses qui sont vraiment factuelles et pas attendre que ça dépasse les bornes. Verset suivant, sachant que leur maître est le vôtre et dans le ciel et que devant lui il n'y a pas de favoritisme. Et ça, je pense que c'est bon de se dire, Dieu est souverain sur tous les hommes et on aura tous à lui rendre des comptes sur comment on aura exercé notre autorité, sur comment on aura exercé notre travail et que nous sommes tous soumis à Christ. Il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Et ça me pose vraiment cette question, est-ce qu'on traite chacun de manière équitable dans nos responsabilités? Je ne dis pas d'uniformiser, hein. Quelqu'un qui a, je sais pas, des difficultés personnelles, on ne va pas lui demander la même chose que quelqu'un qui fonctionne bien. Quelqu'un qui a un handicap, on ne va pas lui demander de faire la même chose que quelqu'un qui n'en a pas. Quelqu'un qui a une difficulté passagère, par exemple avec un deuil ou autre, on va lui laisser plus souffler aussi. Mais est-ce que, devant Dieu, est-ce qu'on peut dire que voilà, je suis impartial et est-ce que je suis équitable? Et je pense que c'est bon d'avoir des patrons qui sont pleins du Saint-Esprit. Et je pense que ce serait bien que parmi les chrétiens, il y ait plus de personnes qui soient chefs d'entreprise pour bénir les familles, pour témoigner de la bienveillance de Dieu, de sa fidélité. Et je pense que c'est là où on peut justement trouver cet exemple en Jésus qui est doux et humble de cœur, qui a encouragé les uns et les autres, mais aussi a repris ceux qui s'égaraient. Il a quand même vidé un temple en renversant les tables des marchands. Donc il savait aussi être direct quand il le fallait, mais ici c'est quelqu'un qui savait s'approcher des personnes qui étaient les plus en difficulté avec beaucoup de douceur, qui s'adaptait aux uns et aux autres. Et je pense que ça peut vraiment être une source d'inspiration pour nous. Jésus, il est monté sur la croix alors qu'il aurait préféré reporter ce temps, c'est la prière qu'il a fait. Pourtant il y est quand même allé parce que Jésus a d'abord été soumis à l'autorité de Dieu. Il a accepté de faire tout ce que Dieu lui demandait. Jésus aurait pu demander à être servi par les anges, ne jamais avoir faim, soif, mal aux pieds. Mais c'est Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples à la fin. Et enfin, c'est en Matthieu 23, 11 que Jésus dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Si on veut être grand aux yeux de Dieu, c'est d'abord qu'on est serviteur de Dieu dans tout ce qu'on fait. Et je vous invite à la prière, de façon que l'équipe s'installe. Oui, Père, c'est vrai que c'est tellement difficile dans notre quotidien d'être toujours à la hauteur de ce que tu nous demandes. Et c'est vrai que ça nous rappelle justement que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver, mais nous voulons vraiment compter sur toi, l'assistance de ton Saint-Esprit, parce que c'est toi qui pourvois, qui nous dirige, qui nous conduit. Et je te prie, s'il te plaît, pour chacune de nos entreprises, je te prie, s'il te plaît, que tu puisses assainir les relations qu'il peut y avoir, peut-être avec nos collègues, peut-être avec nos responsables, peut-être nous en tant que responsables avec des employés. Mais Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que là où tu nous places, on puisse vraiment être des ambassadeurs de la réconciliation, des ambassadeurs de ton amour, des ambassadeurs de quelque chose de plus grand, ton royaume. Je te prie, s'il te plaît, dans tout ce qu'on fait, de nous rappeler que nous faisons d'abord pour toi et que nous prenions l'exemple de Christ, qui n'a pas hésité à toujours faire un peu plus pour que les choses se déroulent bien, pour que les choses progressent, pour être un exemple. Et je te prie, s'il te plaît, que dans tout ce que nous faisions, puissions vraiment retrouver des ressources nouvelles en toi et vraiment notre motivation par l'exemple de Christ et pour ta gloire seule. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen.